Ferrand.
En public et en direct,
Europe 1
est à Toulouse. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour une émission spéciale aujourd'hui, puisqu'elle se déroule en public depuis la place du Capitole à Toulouse. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis ravi d'être à Toulouse sur cette place du Capitole. Je vous souhaite la bienvenue sur les rives de la Garonne et les berges du canal du Midi. Une chose est certaine, je peux vous dire, Céline, que les Toulousains savent recevoir. Depuis que nous avons mis les pieds en pleine éclipse de soleil dans la belle cité de Claude Nougaro et de José Cabanis, dans la ville rose de briques et rose de lumière, nous avons retrouvé la joie de vivre. Toute l'équipe a le sourire ici. Nous sommes installés, Jean-Marc Morandini et Wendy Bouchard vous l'ont dit, place du Capitole, donc au cœur même de la cité, de la ville rose, à quelques encablures d'un certain nombre de sites extraordinaires, du couvent des Jacobins, de l'hôtel d'Assesa où nous étions tout à l'heure, une pure merveille de la Renaissance, de la maison des infortunés Calas d'ailleurs aussi, rue des Filatiers. Alors évidemment, Toulouse reste la capitale du ballon rond, de l'aéronautique, nous évoquerons tout cela tout à l'heure, mais si vous le voulez bien, nous allons nous plonger, pour commencer, dans une histoire beaucoup plus ancienne. À la fin de l'émission, je reviendrai un peu plus en détail sur les origines de Toulouse et sur son histoire. Pour le moment, je vous propose de faire un bond d'un millénaire en arrière pour nous plonger au cœur d'une époque étonnante à tous égards, celle des premiers Capétiens.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le numéro 8 du magazine Détour en histoire est en kiosque avec un énorme dossier consacré au roi de France. Entre légende et réalité, revivez, nous dit la rédaction de Détour en histoire, leurs secrets, leurs amours et leurs passions. Il y a au tout début de ce dossier tout un chapitre consacré aux premiers Capétiens. Et c'est sur ces premiers Capétiens que nous allons revenir en ce début d'après-midi. Le temps des premiers Capétiens, c'est celui, disons-le, c'est celui de la France romane, celle des fresques bigarrées et des sculptures étranges. Vous savez, cet art roman avec son bestiaire halluciné, gorgé de symboles. Nous entrons cet après-midi dans l'univers méconnu de ce royaume capétien, à la fois archaïque, évidemment, et neuf. Vous verrez en quoi il était neuf, plein de seigneurs sanguinaires, d'artisans nomades, de pèlerins et de moines attirés par le mysticisme. Ça, c'est pour l'image d'Épinal. Nous verrons dans un instant ce qu'il faut en penser de cette image. En vérité, les deux notions, la France romane, les premiers Capétiens, ces deux notions nous ramènent au temps de la première France, entre deux dates qui sont en quelque sorte les bornes de notre sujet d'aujourd'hui, 987 et 1152. Alors que l'art roman est en train de s'inventer à Cluny, en 987, la dynastie capétienne voit le jour avec l'avènement du Capet, un moment capital sur lequel je vais revenir à l'instant. Il peut être regardé un petit peu, si vous voulez, en tout cas par certains historiens, comme l'acte de naissance de la France telle que nous la concevons. Et puis, 1152, c'est déjà la construction des cathédrales ogivales, qu'on appellera plus tard les cathédrales gothiques, qui nous font sortir de l'époque romane. En même temps, c'est le divorce d'Aliénor d'Aquitaine avec Louis VII de France, son remariage avec Henri II d'Angleterre, donc l'entrée de cette dynastie capétienne dans un conflit de trois siècles avec l'Angleterre. Le temps sera révolu alors de ce qu'on appelle les premiers Capétiens. Mais, me direz-vous, qui sont-ils, ces premiers rois de la dynastie? Ils ont pour nom Hugues Capet, bien entendu, et puis Robert II, le pieux, Henri Ier, Philippe Ier, Louis VI, le gros, Louis VII, le jeune, des souverains oubliés, dont j'ai envie de dire que, sans le savoir, nous leur devons tout ou presque. Le 3 juillet 987, à Reims, le duc de France se voit sacré roi. C'est la fin de la dynastie carolingienne, celle des descendants de Carolus Magnus, de notre Charlemagne, et le début d'une nouvelle dynastie, celle des Robertiniens, qu'on appellera plus tard les Capétiens en hommage de leur fondateur Capet. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi ce nom d'Hugues Capet ? Eh bien parce que le duc de France possédait de nombreuses abbayes, ce qui de manière symbolique lui donnait beaucoup de chapes à porter. Des chapes, c'est-à-dire des capes abbatiales, si vous voulez. On le surnommait le bien capé, celui qui possédait de nombreuses abbayes. Donc, Hugues fonde une dynastie royale, une dynastie assez fragile au départ, qui est considérée comme transitoire, comme provisoire. En réalité, ça va quand même durer quelques 800 ans, cette histoire, jusqu'en 1792. Ça pourra même se prolonger, si l'on veut, après la Révolution, puisqu'il y a encore Louis XVIII, Charles X et même Louis-Philippe Ier, qui jusqu'en 1848 fait partie de cette dynastie capétienne. Ces grands... on peut dire que ces Capétiens vont fonder l'État moderne, évidemment. Ils vont dominer de bout en bout l'histoire de l'Europe, nous y reviendrons tout à l'heure. Ils iront même essaimer de par le monde, pour ne prendre que le cas du continent américain. Dites-vous que des noms comme la Caroline, la Louisiane, etc. sont empruntés à des souverains capétiens, après tout. Quelle incroyable réussite, quelle prospérité, mais aussi, et c'est ce que nous allons voir, quelle habileté politique chez Hugues Capet. Car, n'en déplaise à beaucoup d'historiens qui sont passés à côté de cet événement et qui n'en ont peut-être pas toujours rapporté tout le sens, la fondation de cette dynastie royale par Hugues et ses partisans a été un coup de maître, un jeu de dupes inouï à la portée historique incalculable. C'est cette prise de pouvoir que je vous propose de revivre ensemble dans un instant.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, poser vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur les premiers Capétiens.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et à l'occasion de la sortie du numéro 8 de Détour en Histoire, Franck Ferrand, vous en profitez pour évoquer Hugues Capet, les premiers Capétiens.
Exactement, et nous sommes en public, bien entendu, vous allez entendre le public toulousain
d'ailleurs,
qui est sur cette place du Capitole. Alors, il faut peut-être vous rappeler un peu à quoi ressemble cette France qui est, on va dire, des alentours de l'an 1000. D'abord, il faut distinguer trois choses. La Francia ou Francie, si vous voulez, un nom directement dérivé des Francs, ces Germains qui ont envahi la Gaule romanisée quelques 500 ans plus tôt tout de même. Alors historiquement, au sens le plus étroit, vous avez un tout petit pays entre Paris et les grandes forêts autour de Senlis, voyez, du côté de Roissy en France, etc. Ça, c'est le domaine. Plus généralement, on appelle Francie toute la région qu'on appellerait nous aujourd'hui l'île de France, qui s'étend donc jusqu'aux confins normands, champenois, jusqu'à l'Aisne. C'est le duché des comtes de Paris et des ducs de France, donc Robert le Fort, Eudes, Hugues le Grand, et puis bien sûr le Hugues Capet dont je vais parler dans un instant. Mais n'oublions pas que la Francie de l'époque, c'est aussi parce que ses rois sont descendants, en tout cas se veulent les successeurs, vont se vouloir bientôt les successeurs de Charlemagne, c'est aussi, ce sont les suzerains de tous les grands ducs d'Occident. Ça, c'est très important. Ça veut dire que des régions très importantes qui s'étendent de la Flandre jusqu'à Toulouse, justement, sont sous le magistère, sont sous la couronne de ces rois. Donc, on n'est pas là dans le domaine royal, ni même dans le territoire royal, mais on est dans une zone d'influence importante. Ça, il faut l'avoir à l'esprit, sinon on ne comprendrait pas l'intérêt qu'il y a à raconter l'histoire, finalement, de ces rois. Alors, je ne vais pas revenir, moi, tout de suite, sur ce qu'est cette époque du Xe siècle, parce que nous allons le faire dans un instant avec Sophie Cassagne-Brouquet. Elle connaît tout ça 10 fois mieux que moi. C'est comme, d'une certaine manière, si elle avait vécu, elle, dans cette période, si je puis dire, du Xe, 11e siècle, et je dis ça évidemment avec toute révérence gardée. Mais rappelez-vous quelques faits. D'abord, les grands fléaux, les invasions barbares, les grandes épidémies qu'on vient de connaître, les famines ravageuses, tout ça n'est plus qu'un mauvais souvenir, si l'on peut dire. On entre dans une période plus heureuse et plus prospère. Tout est très relatif, avec une société ultra hiérarchisée, une société qui est essentiellement rurale. Et quand je dis rurale, il faut parler des forêts qui, à cette époque, jouent un rôle absolument déterminant. On y viendra évidemment tout à l'heure. Des villages qui sont devenus peu à peu des villes, voir comment ces villes sont nées ou comment elles sont revenues à la vie, on y viendra également. Et puis surtout, n'oubliez pas que cette société du 10e, 11e siècle a beau conserver des traces de l'époque païenne, elle n'en est pas moins très profondément croyante. Elle est imprégnée de religion. On passerait à côté de cet univers et de son intelligence si l'on n'avait pas à l'esprit cette dimension essentiellement religieuse. La religion des Capétiens, et ça aussi c'est essentiel, c'est celle de saint Augustin, qui a vécu certes 500 ans plus tôt, mais dont l'influence à l'époque est à son apogée. Pour saint Augustin, si je devais vraiment résumer cette immense philosophie à quelques mots, on peut dire que l'homme est tiraillé. L'augustinisme, c'est un platonicisme moderne, en quelque sorte. Hein. L'homme est tiraillé entre l'esprit et la matière. Il sombre dans la matière par le péché et il n'atteint à l'esprit que par la grâce divine. Or, il y a un art. Et quand je dis un art, ça englobe toutes les productions humaines, quasiment, qui est directement liée à cette notion de la dualité de saint Augustin. C'est l'art roman, bien entendu, et cet art roman joue un rôle essentiel dans l'époque qui nous intéresse. Alors, socialement, l'époque se caractérise par la puissance des clercs, des religieux, si vous voulez, leur domination naturelle sur les laïcs. En 987, au moment du changement dynastique dont nous allons parler, à l'instant du passage de relais, si vous voulez, des Carolingiens aux Capétiens, les évêques et les moines jouent un rôle absolument central, puisque non seulement l'Église transmet la culture, l'éducation, non seulement elle œuvre, et elle œuvre activement à cette époque pour la paix, pour la civilisation, mais elle est, nous ne l'oublions pas, un acteur économique essentiel, pour ne pas dire le principal acteur économique. Et mieux que ça, dans un État qui est pour le moins flottant, très très peu structuré, on peut dire que l'Église offre une force structurante. Je vous l'ai dit, dans les années 980, nos Carolingiens sont donc à bout de souffle. Deux fois déjà, ils ont cédé leur couronne à la petite famille des ducs de France, les Robertiniens. Deux fois, ils l'ont récupérée, cette couronne. Mais enfin, on peut quand même dire qu'ils n'ont ni domaine suffisant, ni bien mobilier, ni influence, ni relation satisfaisante avec le clergé. Ils ne sont plus en mesure d'imposer véritablement une volonté quelconque à tous leurs grands vassaux. Et l'on peut dire que la couronne des Carolingiens est en train de devenir quasiment théorique. Elle est en tout cas presque symbolique. C'est tellement vrai qu'en 954, à la mort de Louis IV, les Robertiniens n'ont même pas essayé de prendre la couronne, comme si ça n'avait même plus d'intérêt. Le petit-fils de Robert, néanmoins, Hugues le Grand, a laissé Lothaire, donc fils de Louis IV, succéder tranquillement à son père. Hugues le Grand meurt lui-même en 956. Il a trois fils. L'aîné, c'est Hugues. Hugues, qu'on appellera donc Hugues Capet, très grand seigneur, même si son apparence physique, semble-t-il, d'après les chroniqueurs, autant qu'on sache, ait été un peu chétive, un peu modeste, on va dire. Il protège un grand nombre d'abbayes, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on l'appelle Hugues Capet. Il est adulé, si je puis dire, par une population de myriades de moines à travers cette chrétienté occidentale. Et l'historien Edmond Pognon écrivait que les moines étaient la presse de ce temps-là. C'est alors dans les monastères que s'écrivait l'histoire, disait-il. Or, à cette époque, à quoi rêve l'Église ? Quand je dis qu'elle rêve, elle est active encore une fois. Elle rêve de paix, elle rêve d'unité, elle rêve surtout de reconstituer l'ancien empire. Donc l'idée, c'est d'aider l'empereur du Saint-Empire romain germanique au détriment de ses couronnes très occidentales qui ne font somme toute que pénaliser la couronne du Saint-Empire. Et donc l'idée du clergé de l'époque, les gens se disent, les moines et surtout les évêques et les archevêques sont eux qui vont jouer le rôle essentiel que vous allez voir dans un instant. Ils se disent, eh bien, laissons cette couronne tomber entre les mains de ces espèces de petits barons, là, de ces Robertiniens. Et comme ça, l'empereur pourra s'emparer beaucoup plus facilement d'un immense territoire et reconstituer l'ancien empire romain. Voilà quasiment l'obsession de l'Église de l'époque.
Thank you.
Dans un instant sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck Ferrand, toujours en direct de Toulouse, pour nous parler des premiers Capétiens.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
On vous retrouve, Franck Ferrand, en direct et en public de Toulouse, où à l'occasion de la sortie du numéro 8 de Détour en histoire consacré au roi de France, vous nous parlez du Capet et des Capétiens.
Exactement, Céline. Et c'est Marianne via Twitter qui nous dit que l'un des témoins de cette ferveur religieuse de l'époque des premiers Capétiens, c'est la magnifique basilique romane Saint-Cernin de Toulouse. Et c'est vrai, nous y étions il n'y a même pas 2 heures ou 2 heures et demie, et je vous assure que c'est un spectacle extraordinaire, que cette forêt d'arc en plein cintre, que cette nef immensément haute, avec un triforium qui constitue quasiment des bas-côtés en hauteur, avec une voûte surbaissée absolument sublime, avec des chapiteaux invraisemblables, des traces de polychromie et de fresques. Tout ça est un spectacle magnifique. Et je ne parle pas à l'extérieur du clocher avec sa forêt de colonnettes. Tout ça est absolument magnifique. C'est vrai que Saint-Cernin de Toulouse est un des beaux exemples de l'art roman. Alors, il y a un personnage qui va jouer un rôle essentiel dans notre histoire. Je vous disais que les évêques et les archevêques jouaient un rôle important dans notre histoire. C'est Adalbéron, qui est non seulement comte de Metz, mais surtout archevêque de Reims. Il a comme bras droit un grand penseur dont j'ai eu l'occasion à ce même micro de vous parler déjà. C'est Gerbert d'Aurillac, qui va bientôt devenir le pape Sylvestre II. Et on peut dire que tous les deux forment une sorte de duo diabolique. C'est embêtant, entre parenthèses, pour un archevêque et un chanoine. Mais ils sont tous les deux décidés à donner les territoires de l'Ouest à l'empereur. Et donc, leur idée, c'est de dégommer, pardonnez-moi l'expression, les Carolingiens pour mettre donc la famille d'Hugues Capet à la place. Ou en tout cas, si ce n'est pas Hugues Capet, que ce soit un autre baron, mais quelqu'un d'assez peu puissant. Or, ce qui est assez étonnant, c'est que Adalbéron, tout en poussant le petit frère du roi Lothaire, va lui conseiller de se révolter contre son frère. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir une partie du clergé se retourner contre les Carolingiens. Il est prévu que le Carolingien et son lointain cousin bavarois se rencontrent en février 985. Et là, on se dit, attention, attention, ça risque d'aller totalement contre nos intérêts. Donc, dans les monastères, dans les diocèses, c'est l'affolement. En décembre 84, Adalbéron et Gerbert vont proposer au duc de France, Hugues Capet, de l'aider à détrôner Lothaire, donc l'héritier carolingien. Pour autant, Hugues Capet ne va pas pousser la loyauté jusqu'à soutenir le Carolingien dans sa conquête de la Lorraine. Hein. Alors, ça, c'est quand même toute cette histoire assez étonnante. L'histoire, avec un grand H, va servir les intérêts d'Hugues. En mars 86, à 44 ans, Lothaire vient à mourir. Son fils Louis lui succède, c'est Louis V, il a 20 ans. Il est bien décidé à régler son compte à cet archevêque Adalbéron, qui a tant conspiré contre son père. Il met le siège devant Reims, entre parenthèses, avec le concours d'Hugues, qui a dû se dire que c'était un moyen sans doute de le détrôner plus facilement. Hugues propose ses bons offices comme par hasard pour servir la conciliation. Louis V se retire et Adalbéron va comparaître en mai 987 devant une assemblée de grands féodaux chargé de juger sa traîtrise. L'assemblée se réunit à Compiègne. Eh bien, c'est en se rendant à cette assemblée de Compiègne que le jeune Louis V, j'allais dire comme par hasard, trouve la mort dans un accident de chasse. C'est Philippe Erlanger qui disait, et vous savez que j'aime à le citer très souvent, « Il est curieux que parmi tant de mystères propres à exciter l'imagination, nul ne se soit jamais soucié de percer celui de cet événement décisif pour l'histoire du monde. » En tout cas, qu'il soit mort d'une façon ou d'une autre, Louis V n'est plus là. Ça va tout changer, ça, parce que le jeune roi carolingien qui vient de mourir de son côté n'avait pas eu le temps de laisser de postérité. Qui va lui succéder? Son oncle Charles de Lorraine? Ça n'arrangerait personne. Évidemment, dans l'esprit des clercs et notamment dans l'esprit d'Adalbéron, le seul successeur souhaitable, c'est l'empereur germanique. Et comme en l'occurrence il a 7 ans, le petit Othon III, on se dit qu'il faut gagner du temps. Et pour gagner du temps, pourquoi n'élirait-on pas ce Hugues Capet qui va finalement être élu roi de France à l'unanimité. Et le 3 juillet de cet an de grâce 987, Hugues est couronné à Reims. C'est très important, hein, cette onction sacrale, bien entendu. On peut dire qu'il va montrer comme ça qu'il n'est pas un roi de transition. Il l'est d'ailleurs si peu qu'il n'a plus qu'une idée en tête, assurer sa propre succession.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et vous êtes Franck Ferrand cet après-midi en direct et en public de Toulouse,
les Toulousains
place du Capitole. Et on les entend. Pour nous parler à l'occasion de la sortie du numéro 8 de Détour en histoire consacré au roi de France, Duc Capet et des Capétiens, avec votre invitée Sophie Brouquet, et qui est professeure d'histoire médiévale à l'Université de Toulouse.
Alors Sophie Brouquet, ce qui est incroyable, c'est qu'Hugues Capet a joué très finement dans cette affaire. Il a laissé Adalbéron convaincre les barons de France. Il est élu. Il est sacré. Vous me disiez que c'était à Noyon, d'ailleurs.
Oui.
À Noyon qu'il est sacré. Or, dans la foulée, il explique qu'il doit sacrer son propre fils.
Oui.
Et ça, c'est très important parce qu'on a bien compris que dans l'idée de ceux qui l'avaient élu, il n'était qu'une sorte de souverain de transition en attendant l'arrivée de l'empereur. Et finalement, en faisant sacrer son propre fils, c'est bien une dynastie qu'il est en train de créer et qui durera 8 siècles du reste.
Oui. Mais, en fait, celui qui a joué le plus finement, je pense, c'est Gerbert. Hein.
L'ombre d'Adalbéron.
Oui. Et alors, en fait, mais là, Gerbert va trahir Adalbéron, parce qu'entre traîtres, on peut se trahir aussi. Gerbert, c'est lui qui a élevé le fils du Capet, le futur roi Robert. Il le connaît très bien. Et donc, il est certainement plus attaché aux Capétiens qu'Adalbéron. Et donc, va arriver comme par hasard une lettre du comte de Barcelone qui dit qu'il est attaqué par le grand vizir de Cordoue, Almansour, le grand victorieux. Et il demande l'aide du Capet. Alors, le Capet dit, il faut impérativement quand même que je fasse sacrer mon fils roi, parce que je vais aller aider... le comte de Barcelone, qui fait partie du royaume, hein, le comté de Barcelone à l'époque. Et donc, en mon absence, il faut qu'il y ait un roi. Et donc, il va faire sacrer son fils Robert pour le jour de Noël, 987, à Orléans.
Alors, Robert devient donc prince héritier, mais déjà sacré.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça va devenir une tradition chez ces premiers Capétiens, en fait, hein, puisqu'ils vont tous faire sacrer leur fils de leur vivant.
La dynastie est tellement peu sûre faut s'assurer de au moins du titre et du sacre qui donne un caractère particulier au roi.
Alors, ce qu'il y a d'étonnant, j'espère qu'on l'a bien senti dans toute cette histoire, c'est que les circonstances ont fait un roi et que la dynastie fondée par ce roi sera une des plus importantes dynasties de l'histoire de l'humanité. C'est quand même incroyable, ça.
Oui, c'est ce que les historiens nous appelons le miracle capétien. Il y a eu toujours un fils pour succéder au roi, jusque évidemment au roi maudit, hein, au fameux roi maudit.
Mais quand alors même. Ensuite, on va passer à d'autres branches de la famille.
Mais il y aura quand même un roi, oui. Ouais. Mais au moins pour les premières générations, c'est très
les
important.
Les rois maudits, ce sont les fils de Philippe IV, le Bel.
Oui, Philippe le Bel, voilà.
Alors, quelle est cette. J'ai essayé de résumer à grands traits ce que pouvait être ce monde roman. Quelle est la société sur laquelle règnent Hugues, Robert et Henri et Philippe et ses premiers Capétiens? Je disais une société rurale, religieuse.
Le grand mouvement au niveau politique, c'est le mouvement de la féodalité. Hein, c'est-à-dire, on dit aussi que c'est le temps des sires, le temps des châteaux. Le pouvoir royal s'est complètement décomposé et le pouvoir appartient à celui qui a un château et qui peut faire régner l'ordre autour. Il est possible qu'on revienne beaucoup aujourd'hui sur cette féodalité qu'on a beaucoup critiquée en disant que finalement c'est beaucoup plus réaliste peut-être qu'un immense empire avec les moyens du temps. Comment peut-on contrôler des gens qui sont à 200, 300, 400
kilomètres ? Les nouvelles circulent très lentement et de façon très peu sûre.
Voilà.
Donc il est peut-être plus facile de fonctionner par un système progressif de liens de féodalité, un système qui d'ailleurs est très hiérarchisé. C'est une société hyper hiérarchisée,
oui,
bien entendu.
Oui, on parle de pyramide féodale, ce qui va du petit seigneur local, qui est le vassal d'un plus grand seigneur, comme le comte de Toulouse, et vassal d'un autre plus grand, au sommet, le suzerain, c'est-à-dire le roi.
Comment...
Donc un système un peu décentralisé, si on va dire.
Alors, ces rois, nous allons parler des reines dans un instant, mais déjà, les rois eux-mêmes, on ne peut pas dire que Capet fasse un règne très remarquable.
Oh non, si vous voulez, je peux vous citer les trois lignes que dit le seul chroniqueur de l'époque. Voilà ce qu'il dit, à parlant du Capet. « Entouré des grands du royaume, il fit des décrets, établit des lois. Toutes les dispositions qu'il prit et ses décisions furent couronnées d'un succès qui l'encouragea. pour s'en rendre digne de son honneur et s'adonner à la piété. C'est tout.
Voilà.
Il n'a pas sacré des pages et des pages sur l'élection du Capet. C'est tout ce qu'on sait sur son règne.
Et le règne de son fils alors, le pieux Robert?
Alors là, ça change, parce qu'on a un règne quand même de plus d'une trentaine d'années. Donc, le temps d'asseoir quand même le règne. On retrouve, comme vous l'avez très bien dit, toute cette alliance en fait avec les moines, et en particulier, plus les moines pour Robert que les évêques.
Que les évêques, oui.
Et
donc, en quelque sorte, si l'on peut dire, plus les monastères, donc les campagnes que les villes, d'une certaine manière.
Oui. D'ailleurs, Capet, par exemple, est mort dans un monastère en pleine campagne. Robert, ça sera la même chose. Mais Robert, c'est un homme qui a été donc éduqué à Reims avec le grand intellectuel de l'époque, Gerbert, et donc qui s'entend bien avec les moines. Il est capable de présider des conciles et de prendre des décisions ecclésiastiques.
Mais concrètement, où vivent-ils ces rois? Ils ont des palais, ils ont des cours?
Ils restent très itinérants, parce que le pouvoir à cette époque-là du Moyen-Âge, c'est le roi que l'on voit.
Et donc, il faut donc qu'on puisse le voir au moins deux ou trois fois dans sa vie, d'une certaine manière,
voilà,
c'est ça l'idée.
Ouais. Mais il reste évidemment cantonné à la région parisienne, bien sûr. Aucun de ces rois ne franchit la Loire.
Ah oui, mais c'est très important de le dire.
Hein. Oui.
Hugues, Robert II, Henri Ier, Philippe Ier, qui n'a pas un rôle essentiel non plus. Qu'il va épouser une Russe, mais enfin ça, on va y venir tout
Philippe
à l'heure.
Philippe Ier, c'est la catastrophe. Philippe Ier, c'est le moment où le pouvoir royal est le plus faible. On est à la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle. Il meurt autour de 1100. Et là, on est vraiment au plus bas. Plus bas.
Je dis qu'il va épouser Anne de Kiev.
Non
c'est son père. Hein, c'est Henri Ier. Il était le fils d'Anne de Kiev.
Voilà.
En fait, voilà. Et puis arrivent alors ceux qui, eux, vont asseoir le royaume, qui sont les grands souverains, Louis VI et Louis VII.
Voilà. À partir de Philippe Ier, on ne pouvait pas tomber plus bas. Le roi a été excommunié trois fois.
Ah oui, on va voir pourquoi dans un instant.
Donc, quand un roi est excommunié, les vassaux n'ont pas à lui obéir. On parle toujours d'excommunion, on se dit « bon, c'est pas grave, c'est religieux », mais non. Tous les liens de serment, tous les serments tombent. Donc, il n'est même pas enterré à Saint-Denis. Il meurt à Saint-Benoît-sur-Loire. Et voilà, à partir de Louis VI, on ne peut que se redresser si l'on veut. Mais en même temps que le pouvoir royal se redresse, il y a l'autre pouvoir royal, celui des Plantagenets, qui lui aussi se redresse face à eux. Et donc, même si le pouvoir royal devient plus fort en France, là, on a fort à faire.
Puisque nous sommes à Toulouse, est-ce que je peux vous demander ce qui se passe dans le comté de Toulouse à cette époque ?
Alors, dans le comté de Toulouse, on est dans une région qui est donc très loin du pouvoir royal, donc en pleine féodalité, et où l'on a donc des comtes qui se disputent entre eux. Alors, il y a le comte de Toulouse. À l'ouest, le duc d'Aquitaine, qui n'est autre que le roi d'Angleterre, et qui vient assiéger Toulouse, Henri II, pour réclamer les droits de sa femme, Aliénor d'Aquitaine, et qui est basé autour de Saint-Cernin. Le camp militaire est basé autour de Saint-Cernin. Et de l'autre côté, on a le comte de Barcelone, le vicomte de Narbonne, le vicomte de Carcassonne, et tous ces gens-là se font la guerre continuellement entre eux.
Oui, donc ça n'est pas beaucoup plus clair que ce qui se passe là-haut, au-dessus de la Loire.
C'est même plus compliqué.
Plutôt compliqué, oui. Vous êtes Sophie Brouquet, auteur de La France au Moyen-Âge aux éditions Ouest-France. Vous êtes auteur des Chevaleresses, une chevalerie au féminin. Ça, c'est un ouvrage passionnant paru dans la collection Pour l'Histoire chez Perrin. Et vous êtes en train de préparer justement un livre sur les reines capétiennes. Et nous allons venir dans un instant, après les maris aux femmes, nous allons parler de ces reines. Et vous allez voir qu'elles sont au moins aussi intéressantes que leurs royaux époux.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Émission exceptionnelle cet après-midi puisque vous vous trouvez Franck Ferrand sur la place du Capitole à Toulouse en direct et en public. Et à l'occasion de la sortie du numéro 8 de Détour en Histoire, vous nous parlez du Capet et des Capétiens.
Oui, alors je l'ai entre les mains ce numéro 8 de Détour en Histoire dont je suis, on va dire, partie prenante. D'ailleurs, on ne peut pas l'ignorer parce que je suis en photo je ne sais pas combien de fois dedans. Mais il y a bien sûr un grand dossier sur les rois de France. Il y a toutes vos rubriques habituelles, l'âme des objets, les faits divers, repères dans l'histoire, l'histoire au tableau, l'illustre inconnu, l'expression en question, etc. Et puis il y a même un reportage sur le tournage de L'ombre d'un doute, comme ça vous verrez comment ça se passe dans les coulisses. C'est donc Détour en histoire, c'est le numéro 8 et c'est en kiosque en ce moment. Alors, vous nous parlez des Capétiens, Céline, mais moi j'aimerais qu'on parle maintenant des Capétiennes en quelque sorte. Oui. Est-ce que l'épouse d'Hugues Capet, Sophie Brouquet, mérite qu'on parle d'elle ?
Oui, moi je trouve.
Alors allons-y.
Alors voilà une illustre inconnue hein, pour le coup. Donc c'est Adélaïde de Poitou.
Moi je n'avais jamais entendu parler d'elle.
Oui, mais en la redécouvrant justement, c'est Adélaïde de Poitou. Donc ils se sont mariés bien avant hein, que Capet soit roi. Hein. Ils ont plus de 20 ans de mariage quand il devient roi. Et c'est une femme dynamique et qui visiblement est assez respectée par son mari puisque justement dans les débats qu'il a avec l'empereur et l'impératrice, puisqu'à ce moment-là c'est une impératrice aussi qui règne, il écrit une lettre à l'impératrice et lui dit bah, écoutez, on pourrait faire une réunion où ma femme sera la consort, mais vraiment au sens la reine,
quasiment régnante. Là, oui, c'est ça.
Comme ça, vous discuterez entre femmes de diplomatie, ça sera aussi bien que moi. Donc, voilà un exemple assez extraordinaire de la place d'Adélaïde. Ouais.
Alors, on peut dire que les successeurs vont avoir quelques problèmes avec leurs épouses. Hein. Voilà. C'est une histoire conjugale impensable, oui. Les premiers Capétiens.
Alors, il y a un historien belge dans les années 30 qui avait écrit un article qui s'appelle « Sept femmes pour un trio de rois ». Voilà, donc, ça explique tout. Alors, Hugues Capet est très sage, on ne lui connaît pas de maîtresse, il y a une bonne entente, visiblement, dans le
groupe. Soit il est très sage, soit il s'entendait bien avec les chroniqueurs, déjà.
Oui, mais bon, je crois que quand même, bon, on aurait trouvé quelques moines à y redire. Tandis que son fils va avoir des démêlés assez extraordinaires, il est marié donc du vivant par son père à la veuve du comte de Hollande, de Flandre, qui s'appelle Rosala au départ, et puis quand elle devient reine de France, elle change de prénom, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, qui s'appelle Suzanne, et il la répudie au bout de quelques mois parce qu'il la trouve trop vieille, elle a 30 ans. Donc lui, faut dire, en a 19. Donc il la trouve trop vieille. Bon, voilà. Ensuite, il va choisir. Il va épouser la veuve du comte de Blois. Alors ça paraît tout à fait banal, sauf que le comte de Blois, c'est le principal adversaire des Capétiens.
Oui, ça tombe mal.
Et alors ça ne va pas parce qu'ils sont cousins et l'Église condamne le mariage. Et lui est le parrain d'un de ses fils. Elle a 15 ans hein, de plus que lui. Et l'Église condamne les mariages entre parrains et marraines. Donc, ils sont excommuniés. Il ne veut pas la chasser. Donc, là, problème. Et puis, finalement, il va épouser quand même. N'ayant pas d'enfant avec elle, il va finalement se résoudre à la répudier. Il va épouser une troisième femme, Constance. Alors, elle, qui est une forte femme, qui vient d'Arles. C'est une Provençale. Les gens de la région parisienne sont très choqués. Elle arrive avec une cour où ils ont les cheveux courts. Ils n'ont pas de barbe. Enfin, ce sont des espèces d'énergumènes, donc ils sont absolument scandalisés. Et en plus, c'est une forte femme. Et alors, les chroniqueurs de l'époque nous la montrent vraiment comme martyrisant son bienheureux et saint mari, qu'elle est sans arrêt en train de forcer.
Incroyable. Voilà. Et alors, Henri Ier et Philippe Ier, et Robert II et Philippe Ier auront des problèmes et seront excommuniés.
Ah oui.
Celui dont j'aimerais qu'on parle parce qu'il reste peu de temps, c'est le successeur Henri Ier qui lui va donc épouser cette princesse venue de très loin.
Alors lui, Henri Ier, il se marie très tard, plus de 30 ans, pour le Moyen-Âge c'est assez rare, et il va chercher plusieurs fiancées dans l'Empire. Et puis finalement, faute de mieux, si on peut dire, il va envoyer une ambassade à Kiev, au grand prince de Kiev. C'est tout début du royaume russe, hein, de Kiev.
C'est, on est à dans l'époque, le berceau de, oui, de royaume voilà. russe.
Et donc, l'ambassade va fonctionner. Cette reine russe va venir en France. Et donc, elle s'appelle Anne de Kiev. Alors, elle est très, très réputée en Ukraine, évidemment, puisque c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Une sorte d'héroïne nationale.
Voilà, une sorte d'héroïne nationale. Et en France, elle va s'avérer être une reine assez importante, puisqu'elle va être régente à la mort de son mari. Et c'est elle qui va donner le nom Philippe à la dynastie capétienne. Il n'y avait jamais eu de Philippe en France auparavant.
Oui, c'est assez spectaculaire quand même. Elle était très belle, disait-on.
Oui. Les reines sont toujours très belles.
Oui, chez les chroniqueurs, elles sont toujours très belles. Évidemment, on ne parlera pas d'Aliénor d'Aquitaine, l'épouse de Louis VII. On pourrait peut-être dire un mot de celle de Louis VI, celle au pluriel.
Oui, Louis VI, il va y avoir une tentative de mariage, mais qui va échouer. Et puis finalement, il va épouser Adélaïde de Savoie ou de Maurienne, dit-on. Alors là, pour une fois, le chroniqueur nous dit, elle n'était pas sur une beauté sur laquelle on s'arrêtait, ce qui veut dire que bon, elle avait même été fiancée à un seigneur qui n'avait pas voulu d'elle, en la voyant. Et par contre, elle est d'une grande intelligence, une forte femme là aussi. Et que ce soit Anne de Kiev ou Adélaïde de Maurienne, ce sont deux reines qui vont, après la mort de leur mari, se remarier. À l'époque, c'est tout à fait normal qu'une ancienne reine de France se remarie et vive leur vie donc sur leur domaine.
Alors, un mot peut-être de ceux qui succéderont. Après Louis VII viendra le célèbre Philippe Auguste, quand même, qui va jouer un rôle essentiel dans la constitution, lui, du royaume.
Louis Dieudonné, puisque son père va se marier trois fois. De ses premiers mariages, il n'aura que des filles, avec Aliénor et avec sa deuxième femme. Et enfin vient l'enfant tant espéré, Louis, qui va être surnommé donc Dieudonné, et qui, lui, évidemment, est le grand roi. On peut dire le grand roi du Moyen-Âge, hein, français, c'est vraiment le roi, d'où son nom de Philippe Auguste.
Vous allez nous faire un beau livre avec toutes ces reines
capétiennes. Oui. Je découvre vraiment ces reines et il y a énormément de sources.
Avec beaucoup de sources écrites, en revanche, quasiment pas de représentations. On ne sait pas à quoi elles ressemblaient.
Il y a des représentations...
Souvent tardives.
Très tardive, il y a quelques sceaux quand même. Hein. Les reines commencent à apparaître sur des sceaux. C'est à partir d'Adélaïde qu'on a la reine est représentée tenant un sceptre avec la fleur de lys.
Eh bien, écoutez, j'ai hâte de lire ce livre. Je rappelle les deux autres. La France au Moyen-Âge, donc chez West France. D'ailleurs, celui qui va sortir sera chez West France aussi. Oh. Et puis, Chevaleresse, une chevalerie au féminin. Ça, c'est assez surprenant. C'est édité chez Perrin. Si vous voulez bien, Sophie Brouquet, vous restez avec nous parce que j'aimerais vous poser deux ou trois questions dans la rubrique Retour aux origines, aujourd'hui consacrée à Toulouse.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Au mon pays, au Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes.
On n'imaginait pas une émission comme celle-ci sans la voix de Claude Nougaro, évidemment. Toulouse, qui a été très tôt une très grande ville gauloise, dès le 4e siècle avant notre ère. C'était les Gaulois, les Volques Tectosages, la population locale. Et ils avaient ces Volques, ils avaient un chef qui a été Brennus, bien entendu. C'est le Brennus qui va aller piller Delphes, qui va aller beaucoup plus loin en Asie, piller Éphèse. Et puis surtout, qui va mettre à sac Rome en 390 avant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'à Toulouse, quand on n'a pas le bouclier de Brennus, vous savez, qui récompense le vainqueur du championnat de France de rugby à 15, dans le top 14, eh bien, on est malheureux. Sauf que le bouclier de Brennus, ça vient de Charles Brennus, qui l'a dessiné en vérité, et non pas du chef gaulois. Bref, grande ville gauloise, très vite en contact avec les Romains, ce qui va expliquer que la romanité de la ville va se développer tôt, tout ça le long de la Garonne, bien entendu, axe majeur, il ne faut pas l'oublier. En 419 de notre ère, cette fois, c'est la deuxième heure de gloire de la région et de la ville, quand les Visigoths débarquent depuis l'Europe de l'Est. Eux-mêmes vont piller Rome, du reste. Et ils vont rapporter ici un certain nombre de richesses extraordinaires. J'ai pas le temps, malheureusement, d'insister là-dessus, mais ce serait intéressant. Ces Visigoths, ils sont battus. Ça nous rappelle l'école à Poitiers, à Vouillé précisément, près de Poitiers, en 506. Et évidemment, à ce moment-là, ce sont les Francs qui arrivent. Et la ville, on peut dire que la ville perd un peu de son aura, Sophie Brouquet,
oui,
à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Oui, ce n'est plus une capitale, oui.
Alors, on arrive bientôt dans l'époque des comtes de Toulouse dont je parlais tout à l'heure. Hein. Ce qui va marquer l'histoire, alors là, on est un peu plus tard, 11e, 12e, c'est le catharisme, bien entendu.
Oui.
Phénomène essentiel dans l'histoire régionale. On aurait bien aimé en parler d'ailleurs. On fera peut-être une émission assez bientôt. Je regarde Lorena Martin en disant ça. Et puis, parlons bien entendu des capitouls qui vont. Ces comtes de Toulouse sont souvent en guerre hors de la ville et ils confient la gestion de la ville à un conseil, 8 magistrats municipaux en robe rouge et noire, les fameux capitouls, qui vont durer, qui vont perdurer jusqu'à la Révolution, bien entendu. Et nous racontions l'autre jour l'histoire terrible du supplice et de l'affaire judiciaire de Calas. D'ailleurs, on était tout à l'heure devant la maison de Jean Calas, rue des Filatiers. Évidemment, cette affaire Calas a mis en avant le fameux capitoul David de Baudrigue. Bon. Alors, les protestants ont joué un rôle dans l'histoire régionale ?
Toulouse, c'est quand même la capitale catholique. La ville protestante, c'est Montauban. Oui. Avec donc la rivalité, il y aura toujours, il y a toujours hein, des insultes entre gens de Toulouse et de Montauban qui sont liées à ça. Et il y a Toulouse se présente vraiment comme la capitale du catholicisme.
Alors il y a,
il y a une Saint-Barthélemy très violente à
et
Toulouse.
Oui, par exemple. Et il y a une autre, tradition, si je puis dire. C'est une tradition politique très forte ici. Ça supposerait alors une émission entière. Oui. Bien entendu, on est loin du Moyen Âge.
Oui.
Je signale quand même que dans un café qui se trouve là sur la place du Capitole, juste derrière nous, le café Bibent, c'est là que d'ailleurs on dit que Jean Jaurès avait ses habitudes dans ce café, c'est là que les fameux étudiants serbes qui se sont réunis autour de Gavrilo Princip ont commencé à tramer le complot qui allait donner finir par la mort, par l'assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand à Sarajevo, origine de la Première Guerre mondiale. Donc il y aurait beaucoup à dire, bien entendu, sur une ville dont l'histoire est extrêmement riche. Merci beaucoup Sophie Brouquet, merci à nos équipes techniques, à Lorena Martin et à Mathilde Saletchou qui m'ont accompagné dans ce petit périple à Toulouse. Merci à tout le monde. Merci aux Toulousains de leur accueil. Écoutez-les, les Toulousains. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck. On embrasse également les Toulousains et cette ville magnifique. Quel temps vous avez là-bas?
Il fait de mieux en mieux. Ce matin, quand je suis arrivé, je me suis dit, oh, mais il fait pas si beau que ça, mais c'est parce qu'il y avait l'éclipse.
Eh ben, vous avez bien de la chance parce qu'ici, on se les caille. Et justement, le thème de notre émission, c'est pourquoi le printemps nous met dans cet état avec, entre autres, comme invité star, Evelyne Delia qui sera avec nous.
Merci beaucoup Marion. Et nous nous retrouvons lundi, Céline.
Avec grand plaisir, Franck, à lundi.